Merci, Madame la Présidente. Je voulais avant toute chose remercier Aconit et AFID, ces deux associations organisatrices de ces rencontres. Dire aussi merci à Daniel Toulouse et Catherine Cuenca d'associer régulièrement l'approche juridique à leurs travaux. Et c'est toujours réjouissant de parler évidemment d'autre chose que de droit et de partager des questionnements autour de cet objet qu'est le patrimoine scientifique et technique. Alors, les enjeux juridiques sont évidemment très nombreux. Ils engagent à la fois le patrimoine perçu dans sa matérialité, hein, comme un objet physique. Ce sont des sites, c'est du matériel, des collections, des archives scientifiques. On a parlé un peu de la richesse très grande de ce patrimoine. Et puis, patrimoine aussi qui tire bien sûr sa valeur de sa dimension intellectuelle, en particulier l'intérêt scientifique ou technique dont il est porteur, les usages, les savoir-faire qu'il mobilise, la production intellectuelle dont il témoigne ou qu'il accompagne. Il n'est évidemment pas question de tout passer en revue. J'ai choisi de me concentrer sur le défi que pose le patrimoine scientifique aux juristes lorsque se présente la question de sa protection. Déjà, vaste sujet. Le patrimoine scientifique et technique, donc objet complexe, défini dans ce double plan du matériel et de l'immatériel, on s'aperçoit qu'il est finalement assez mal logé dans les outils de protection du droit, tels que nous les connaissons en tous les cas dans le droit français. On perçoit d'une façon assez patente une forme de décalage entre le projet de protection dans sa conception d'origine, mais aussi dans la façon dont il a évolué dans le temps, jusqu'à l'adoption du Code du patrimoine, hein, qui est un peu la charte de protection dans laquelle on va trouver tous les dispositifs de protection du patrimoine culturel. Donc décalage entre ces outils-là, qui sont notre droit positif, comme on dit, et les attentes qu'on peut avoir s'agissant de ce type de patrimoine. Il y a plusieurs écueils. Un premier écueil est assez basiquement, j'allais dire, la reconnaissance de patrimonialité de cet objet complexe. Le deuxième est dans la difficulté de mettre ensemble l'intérêt patrimonial et l'intérêt scientifique, c'est de concevoir juridiquement un dispositif qui entende et articule ces deux intérêts, et difficulté qui est accentuée par le fait que ce patrimoine est toujours, dans certains cas, en usage. La conciliation entre l'usage et le projet de conservation est toujours un petit peu problématique. Alors, pour la première de ces difficultés, la patrimonialité, la reconnaissance de patrimonialité, il y a plusieurs causes à cette difficulté. Évidemment, nous parlons de patrimoine contemporain, et si les dispositifs de protection ne contiennent pas de limites temporelles, le choix du législateur a été de ne pas se borner, de ne pas se limiter d'une façon artificielle à une datation, à un système de datation. Certains pays connaissent ce type de technique. Nous n'avons pas fait ce choix-là. Et pourtant, le patrimoine du XXe siècle peine le plus souvent à franchir la barre de la protection. Soit on conteste des protections. Alors, je pense à l'inscription d'un immeuble de la CAF, qui est une architecture récente des années 50 à Paris, qui a été inscrit, et l'inscription, je reviendrai un petit peu à l'économie du dispositif, mais l'inscription est une servitude qui n'est pas aussi lourde que le classement et qui est fréquemment utilisée pour du patrimoine contemporain. Et là, on s'aperçoit que même pour cette servitude-là, plus légère, on a un niveau d'exigence extrêmement élevé dans l'intérêt public du point de vue de l'art et de l'histoire. Là, on discute de cette protection qui a été décidée par le préfet de région, et le juge considère qu'elle n'a pas lieu d'être en argumentant autour de la question de l'authenticité et de la façon dont cette architecture a été conçue et doit être modifiée pour des raisons de sécurité. Donc on fait tomber la protection à ce moment-là. On a aussi en mémoire fraîche l'exemple des Halles de Fontainebleau, prouesse de la technique. Exemple assez rare d'architecture du béton, construit en 1941. À l'époque, il y a assez peu de marchés publics. puis le béton est utilisé à d'autres emplois. Et j'ai été assez intéressée de voir qu'il y avait le premier ouvrage béton à Grenoble. À Fontainebleau, il y a une requalification par le maire de l'espace public dans lequel s'inscrit ces halles. Donc il y a une tension entre la volonté de l'État de protéger et la volonté du maire de faire évoluer la perspective urbanistique de la ville. Par conséquent, malgré un projet d'instance de classement qui est retiré, malgré la mobilisation de la société civile, cette halle est détruite. Elle vient d'être démolie, je crois, le 24 septembre. Il y a des photos assez spectaculaires de cet exemple. Et l'architecte auteur de ces halles, c'est un des architectes du CNIT de la Défense. Voilà, donc on a un exemple là d'un patrimoine technique qu'on n'a pas réussi à protéger. Alors cette difficulté de reconnaissance, elle vient effectivement de ce qu'on est sur un matériau contemporain. Elle est aussi peut-être et plus fondamentalement, j'allais dire, dans la façon dont les textes ordonnent le projet de protection, hein, le mode sur lequel ils traitent le rapport entre des objets, des sites, et ce rapport à la valeur immatérielle qu'ils recèlent. Les bases de la protection sont posées en 1913. La loi du 31 décembre 1913 est une forme de charte de fondation dans la protection du patrimoine culturel. Nous sommes aujourd'hui en pleine année de commémoration. C'est une loi à la fois qui est très importante, charte de fondation. C'est aussi une loi matricielle, dans le sens où elle a très très fortement structuré, influencé toute l'histoire du droit du patrimoine, hein, dans l'édification des différentes lois. La loi 13 a été un modèle, hein, et encore aujourd'hui on en sent l'empreinte très très forte dans le code du patrimoine et dans les différents dispositifs de protection. Alors si je peux juste faire une page de publicité, en l'occurrence nous venons de publier un ouvrage sur la genèse de la loi 13, un ouvrage qui réunit des historiens d'art, des conservateurs et des juristes sur le pourquoi de cette loi de 13, les héritages, la pratique administrative joue un grand rôle dans la naissance de ce texte, mais il y a aussi un contexte de ce début de 20e siècle, les discussions autour de la séparation des églises et de l'État, toutes les discussions autour de la notion de propriété sociale, hein, la perception que le propriétaire n'est plus tout à fait souverain sur sa chose, que le droit de propriété est aussi un ensemble d'obligations et pas seulement un ensemble de droits. Donc il y a tout ce contexte-là qui fait qu'advient cette grande loi. Alors cette loi, quel est son apport majeur? Elle crée une propriété à charge, c'est-à-dire c'est une servitude sur des biens culturels, des biens considérés comme revêtant un intérêt public du point de vue de l'art et de l'histoire. Et cette servitude met le propriétaire sous tutelle, qu'il soit public ou privé, lorsqu'il entreprend toute modification, restauration, tout acte susceptible de porter atteinte à l'intégrité matérielle du bien, il doit solliciter l'autorisation de l'administration compétente. Donc ça, c'est ça l'apport de la loi de 13, c'est à la fois de généraliser la servitude, auparavant elle n'était applicable depuis 1887 qu'aux propriétés publiques, de généraliser cette servitude et de permettre un classement d'office, c'est-à-dire sans le consentement du propriétaire. C'est une des grandes lois centralisatrices, une des grandes lois culturelles centralisatrices. Et on s'aperçoit que, alors c'est très très sommaire, hein, comme description de la loi de 13, il y aurait bien d'autres choses à en dire. On s'aperçoit que cette loi sur le métier, bien entendu, ça n'a pas été de l'eau stagnante, elle a évolué, notamment dans son périmètre de protection. Hein, la notion de patrimoine, Catherine Ballet l'a évoqué, à partir des années 70, un petit peu explosé avec cette triple extension dont parle Françoise Chauet, qui est une extension typologique, chronologique, géographique, et qui fait que, effectivement, alors que le projet était plutôt concentré sur les beaux-arts, hein, la rhétorique en 1913, c'est quand même la protection de l'art national, à partir des années 70, on intègre un patrimoine un petit peu différent. C'est là qu'on va commencer à parler du patrimoine ethnologique, du patrimoine industriel, de ces patrimoines qui sont plus des objets témoins que des objets qui ont une valeur intrinsèque propre. Le patrimoine scientifique et technique rentre par conséquent dans le champ de vision du législateur. Donc l'objet évolue, mais cependant le projet persiste, le projet initial, les fondamentaux du projet initial persistent. Et ces fondamentaux, c'est un projet concentré sur la matérialité de l'objet, c'est-à-dire sur la conservation matérielle. La notion de conservation, là, elle s'attache à préserver l'intégrité matérielle de l'objet. Et ce projet-là demeure, et demeure aujourd'hui encore tout à fait en vigueur. Si bien qu'on peut se dire que même si ce patrimoine scientifique et technique rentre dans le champ de vision, il est un peu réducteur par rapport précisément à la complexité de cet objet dont on a parlé tout à l'heure. La conservation d'un objet technique et scientifique n'a de sens, on l'a rappelé, plusieurs personnes l'ont rappelé, que s'il est relié précisément aux usages et savoir-faire qu'il mobilise. La compréhension d'un objet nécessite, par exemple, d'avoir accès aux archives qu'a généré sa production, aux archives des chercheurs, des institutions de recherche, aux archives des entreprises qui en ont assuré la fabrication, par exemple. Et on observe que le droit du patrimoine, à aucun moment, n'assure cette connexion-là. Dans certains cas même, le droit prévoit des dispositifs spéciaux qui sont au risque de la préservation de l'unité patrimoniale. Et peuvent organiser juridiquement le démantèlement d'un ensemble complexe. On a évoqué le sort des archives publiques. Le droit des archives publiques est un droit spécial qui va organiser la collecte et le versement des archives dans des services dédiés. Et le sort des archives est tout à fait distinct des éléments mobiliers, des autres objets patrimoniaux qui pourtant font partie de cette même entité. Alors, les bonnes volontés parviendront à assurer l'unité, mais le droit, là, est un petit peu, parfois, à contre-courant. Hein. Le droit des monuments historiques, le droit des archives, le droit des musées, ce sont des isolats dans lesquels il y a finalement assez peu de circulation. Il y a de la circulation institutionnelle, le cas échéant, pas toujours. Il n'y a pas de circulation d'un point de vue juridique. Sans compter que le droit du patrimoine a une vision très singulariste de l'objet. Elle a une vision objectale, mais elle a une vision singulariste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instrument qui permette de protéger un ensemble constitué, qui dégagerait une valeur propre, indépendamment de la valeur des objets qui le constituent. La notion juridique de collection n'existe pas. Il y a la notion de fonds d'archives, mais encore que c'est une notion archivistique, ce n'est pas une notion vraiment juridique très très solide. Et là, cette notion de cette idée d'une protection d'un ensemble, qui par exemple pourrait faire naître une servitude de maintien in situ, de non-dispersion, etc., n'existe pas encore pour le moment dans le droit français. Alors peut-être que la future loi patrimoine nous prépare une protection sans doute, hein, il y a eu plusieurs tentatives de protection. Ça pose des questions complexes, hein, de protéger un ensemble pour le propriétaire, hein, pour un propriétaire privé. Ça va poser des questions de charge, de conservation de l'ensemble, mais ça va aussi poser des questions de transmission en cas de succession, etc. Comment assurer la préservation de l'ensemble? Ce sont des questions un peu complexes qu'on va avoir à résoudre. Donc,
voilà, je vais y arriver. Voilà, une petite minute ou deux encore. On a déjà dépassé de 5 minutes. Si... Je suis désolée, hein, c'est très intéressant.
Non, je suis un peu bavarde.
Tous les sujets sont intéressants. Je pense qu'il faut. La FID et la CONIT nous ont fait un programme très riche. Comme toujours, on va être extrêmement frustrés. On se rattrapera à midi. On vous posera tous plein de questions, je pense, sur le temps du repas. Allez-y.
Alors, juste pour terminer sur cette sorte de déni de patrimonialité, le terme est peut-être un peu fort, mais s'agissant du patrimoine scientifique, où effectivement on concentre le regard sur la matérialité, alors qu'il y a bien d'autres choses, et on a évoqué ensemble la notion de richesse matérielle et immatérielle, même cette césure qui est très parlante pour un juriste, matériel, immatériel, pour, de mon point de vue, considérant le patrimoine, elle n'a pas toujours du sens, tant les deux sont étroitement intriqués. Il y a ce déni de patrimonialité, et je pense qu'il y a une sorte de déni de patrimonialité spécifique. Le patrimoine scientifique et technique est un objet, je crois, qui a sa spécificité. Et puis, deuxième écueil, et là, vite, j'ai évoqué la question des usages. Et c'est vrai que les usages, c'est une forme d'impensé dans le droit du patrimoine. Les usages sont toujours considérés comme quelque chose qui est au risque de la conservation d'un objet. L'usage est posé en opposition systématique à la question de protection du patrimoine, comme si le patrimoine en usage, toujours en usage, était quelque chose de toujours compliqué, de toujours conflictuel. Ça concerne pas seulement le patrimoine scientifique, mais c'est vrai que ça concerne aussi beaucoup le patrimoine scientifique et notamment les patrimoines des laboratoires. Et je prendrai juste un seul exemple dans lequel effectivement le juriste est un peu désarmé, c'est le statut des collections d'études qui sont encore dans les laboratoires qui sont par exemple abrités dans des institutions patrimoniales. Par conséquent, ces collections d'études sont sur le métier, elles sont travaillées, elles sont éventuellement détruites, elles sont échangées, elles circulent notamment dans l'espace international, et pourtant elles ont un statut déjà patrimonial. Elles sont sous statut soit domaine public droit commun, soit sous statut domaine public Musée de France. Par conséquent, les deux règles de l'inaliénabilité, de l'imprescriptibilité, etc. Donc un statut extrême, à la fois protecteur et intéressant, mais un petit peu complexe lorsqu'il s'agit de gérer cet usage et de le concilier, de le concevoir en cohérence et en bonne intelligence avec la question de la conservation. Voilà, je termine ici avec quelques-unes des portes à ouvrir dans cette question du statut juridique du patrimoine scientifique. Merci.